Forum mondial Normandie pour la paix 2020, parole.
Des rencontres, des témoignages, des réflexions, des analyses au micro des radios locales fréquenciées en Pays de la Loire et Radio Espace en Normandie.
C'était début octobre à Caen.
Lors du débat à l'enfance dans les conflits, Christelle Rocheteau, directrice de SOS Enfants et administratrice de la Voix de l'Enfant, a témoigné sur les actions en direction des enfants dans les zones de guerre et principalement à l'est de la RDC. Elle évoque ici les différentes formes de traumatisme qui frappent les enfants dans les conflits. Christelle Rocheteau, vous êtes directrice sur SOS de Enfants et donc à ce titre, vous êtes préoccupée des façons dont on s'occupe des enfants qui se trouvent mêlés sous de multiples formes au conflit. Vous êtes intervenue principalement au Congo oriental, dans le Kivu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez constaté là-bas sur ce qui se passait avec les enfants et ce qu'il fallait faire ?
Tous ces enfants, comme je l'ai dit lors de la conférence, en fait, connaissent la guerre depuis 25 ans. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes adultes qui n'ont connu que la guerre comme cadre de vie. Donc on essaye avec eux d'imaginer un autre avenir. Donc ça passe par un travail collectif avec la famille. C'est avec sa famille que l'enfant va pouvoir évoluer. On mise sur le noyau familial, sur cette reconstruction familiale, parce que l'enfant est au centre de sa famille et c'est toute la famille qui doit se projeter sur un autre avenir. Donc ça passe bien sûr par de l'éducation. Ça, on va dire que c'est sur le long terme. Et sur le court terme, c'est un accès à des soins, à une santé accessible. Donc on travaille beaucoup sur ces deux aspects, santé et éducation, et aussi formation. Il faut que ces jeunes qui vont avoir 15 ans, qui se projettent dans l'avenir, puissent avoir en main un métier. Et ça peut être par des formations très courtes, très pragmatiques. On a des centres de formation pour des jeunes garçons, aussi pour des jeunes filles. On a aussi on connaît malheureusement beaucoup de jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles, qui se retrouvent avec un bébé, qui risquent d'être rejetées par leur famille. Donc, et à partir du moment où on arrive à amener ces jeunes à devenir des acteurs économiques aussi, ils retrouvent déjà la place dans leur famille et commencent eux aussi à se projeter dans un avenir qui sera, on l'espère, meilleur. Oui.
A priori, spontanément, on pense enfants soldats. Hein. Mais il n'y a pas que des enfants soldats. D'ailleurs, les enfants soldats, vous avez donné un exemple tout à l'heure très intéressant. Des fois, les motivations ne sont pas politiques, loin de là. Et puis, de toute façon, les motivations comptent peu. Ils ne contrôlent pas ce qu'ils font. Ce sont d'autres qui les font agir.
Oui, tout à fait. Après, dans les enfants soldats, alors il y a des enfants qui sont enlevés et qui sont kidnappés pour intégrer des milices. Après, il y a des enfants aussi qui décident à un moment de partir. Alors souvent, quand ils décident ça à 14-15 ans, c'est qu'ils n'ont en fait aucun espoir d'avenir et qu'ils se disent peut-être là, je vais gagner ma vie, je vais devenir quelqu'un d'important parce que je vais porter une arme. C'est un peu l'idéalisme qu'on peut connaître sur certains jeunes. Donc après, il faut souvent, ils se rendent compte que c'est pas aussi merveilleux que ce qu'ils avaient pu imaginer. Ils s'enfuient. On essaye, nous, alors à ce moment-là, de les récupérer et de les amener vraiment sur un chemin sur lequel ils vont pouvoir construire un avenir plus durable et devenir et retrouver une dignité.
Vous avez donné l'exemple de cet enfant avec sa chèvre.
Oui, Amani. Lui, il s'était retrouvé, du coup, son père est mort pendant les conflits, donc il se retrouvait chef de famille. Quand on vit dans un milieu de guerre, on devient adulte très très jeune. Étant le seul garçon de la fratrie, il s'était senti une responsabilité et il voulait venger le dommage qu'avait connu sa famille parce que un groupe armé avait volé sa chèvre et il voulait venger. Il a pris les armes, il est allé combattre pour venger sa famille. Et c'est vrai qu'on a fait tout un accompagnement avec lui. Et c'était parmi nos meilleurs éléments. Il avait un fort caractère, il était parmi nos meilleurs éléments au centre de formation. Mais il n'est allé mieux que lorsqu'on a réparé l'origine de son mal-être, c'est-à-dire qu'on lui a racheté une chèvre.
Alors vous évoquez bien sûr les enfants soldats, mais il y a aussi ces enfants nés de viol, ces enfants non désirés, bien évidemment, on le comprend bien. Et qui ont aussi été témoins de violences. Vous pouvez évoquer ces deux cas ?
Oui, ça, c'est des cas difficiles parce qu'on imagine le traumatisme de la maman qui a été violée. et qui se retrouve enceinte et qui doit vivre avec cet enfant issu d'un viol, issu d'un acte qu'elle n'a pas désiré. Et là aussi, il y a tout un travail à faire. On a des formations très très courtes parce que c'est des jeunes femmes qui ont besoin de gagner leur vie. Si on ne veut pas qu'après le viol, elles partent dans la prostitution ou sur d'autres chemins, on a besoin de les récupérer à ce moment-là et de leur donner vite les moyens de gagner leur vie parce qu'il y a cette survie qui est en fait fondamentale. Et c'est vrai que quand on arrive à les former, on a un centre de formation avec des formations sur un mois ou sur 4 mois, rapidement elles retrouvent la place dans la société et finalement elles finissent par accepter le fait d'avoir ce bébé parce qu'elles deviennent actrices aussi et qu'elles commencent à trouver une place quelquefois au sein de leur famille et à devenir quelqu'un de référence. C'est la même chose pour les enfants soldats qui sortent du centre de formation, qui d'un coup deviennent aussi un peu des modèles dans leur quartier. Ils ne sont plus le vilain garçon, mais ils deviennent le garçon qui a un métier et qui ramène même de l'argent à ses parents.
Et les témoins des violences, quels sont les traumatismes, le niveau des traumatismes? Témoins, j'ai bien dit. Hein.
Tout le monde est témoin. Au Nord Kivu, depuis 25 ans, tout le monde est témoin. J'avais été frappée, mon premier voyage, c'était en 2006, dans la partie Grand Nord du Nord Kivu. Et ce qu'on me demandait à l'époque, c'était alors que je me présentais comme ONG, on ne me demandait pas d'argent. On me demandait juste de témoigner. Les gens se sentent abandonnés à eux-mêmes parce que c'est un conflit. Même aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. Peu de personnes connaissent le Nord Kivu et le fait qu'il y ait une guerre depuis 25 ans. Et j'avais été frappée en 2006. Toutes ces femmes, on arrivait dans des villages. Je crois que toutes les femmes avaient dû connaître à un moment ou un autre un viol. C'était assez effrayant. Et ce qu'elles me demandaient, c'était de témoigner. Elles avaient l'impression de crever dans la différence générale.
Il y a aussi un souci d'ailleurs que l'on retrouve lorsque ces enfants migrent. C'est le problème de l'identité. Et nous en France, on n'a pas forcément conscience qu'il y a un problème d'identité à la base. Expliquez-nous.
Il n'y a pas d'état civil. Enfin, ça existe, mais dans un pays comme le Congo, très très peu d'enfants ont un acte de naissance. Alors ça vient aussi beaucoup de l'État qui n'est pas à la hauteur. Les gens qui travaillent dans les bureaux d'état civil ne sont pas payés depuis X mois, donc il n'y a pas... un problème de l'État. Mais ces enfants qui naissent sans identité, l'identité c'est le premier droit quand on naît. Oui. Avoir un nom et aussi avoir un pays, ne pas vivre dans la patrie. Et alors qu'on sent que ces enfants ont aussi ils sont très patriotes, mais malgré tout ils n'ont pas d'identité. Alors quelquefois ça se révèle difficile au moment où ils passent des examens à la fin de l'école primaire, où là ils sont obligés de se débrouiller pour fournir un papier qui justifie de leur âge et de leur nom pour passer un diplôme. Mais c'est aussi, effectivement, la minorité, c'est aussi important de la prouver dans certains cas. Et puis aussi faire de la recherche des enfants qui vont être enrôlés dans les groupes armés, qui vont disparaître. L'identité peut aussi permettre de les repérer et de les réunifier avec leur famille. Oui.
Pour terminer, comment vous évaluez en termes quantitatifs et qualitatifs l'action que vous menez? On a l'impression, vu l'étendue du problème qu'il y a en RDC, que c'est comme si on essayait finalement de vider la mer à petite cuillère, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez ce sentiment?
Non, j'ai pas du tout ce sentiment en fait. Je crois que c'est un des pays où SOS Enfants a le plus d'impact. On agit toujours sur des micro-projets. On n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes du Congo, ni même de résoudre tous les problèmes du Nord Kivu, parce que ça, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, qui ne sont pas de notre fait. Mais c'est une population qui est très... qui aime travailler en communauté. Donc cette communauté est leur force. Ils sont très loin de la capitale, donc ils savent que s'ils doivent compter sur quelqu'un, c'est déjà sur eux-mêmes. Donc on fait un travail impressionnant avec ces populations. Moi, à chaque fois, je suis toujours très émue, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est pas moi qui suis sur le terrain, mais je suis toujours très émue de l'impact que les projets ont, et de manière durable et pérenne.
Merci à vous, Christelle Rocheteau, et puis bonne continuation à SOS Enfants.